Je ne sais pas pourquoi, mais moi, où j'ai trouvé cet outil, je me suis dit, ah tiens, je vais vraiment l'essayer celui-là. Et je me suis aperçu que bah, finalement, notamment dans des situations un petit peu tendues, que ce soit dans ma vie familiale, ou, eh ben, si je me forçais à écouter ce que les gens ne disaient pas, alors, ça paraît un petit peu conceptuel comme ça, mais finalement, si on fait cet effort-là, bah, ça nous force à rester à l'écoute quelques secondes de plus, et puis on s'aperçoit que tiens, c'est intéressant de faire ça, et du coup, on laisse plus d'espace à l'autre.
Welcome to Pyramid to Circles. This podcast is for the leaders and the change makers who have the goal of evolving their company,
the department, the team,
towards more collective intelligence, more empowerment,
more self-organization,
but who are asking themselves how to make this happen, where to start, and how to get inspiration from others.
Alors, je me demandais récemment bah, quelle était finalement la compétence clé à développer dans l'entreprise pour qu'elle développe son agilité et son intelligence collective. Est-ce qu'il y a une compétence ou une qualité que chacun doit développer pour véritablement se transformer? Ma réponse, qui moi me paraît être essentielle pour se transformer, pour transformer l'entreprise, c'est tout simplement la compétence de l'écoute. L'écoute, si elle est de qualité, offre un espace à l'autre pour s'exprimer et être reçu vraiment pleinement. Si elle est attentive, elle permet non seulement de comprendre l'autre, mais aussi de connecter avec le cœur. Écouter, c'est aussi suspendre son jugement et commencer à collaborer et donc à s'adapter. Donc j'avais très envie d'explorer ce sujet dans un épisode du podcast. C'est un sujet qui peut sembler en fait banal, puisque tout le monde a une paire d'oreilles pour écouter, mais qui en réalité me paraît très profond et qui mérite vraiment d'être exploré. Alors pour ça, j'ai le plaisir de recevoir une personne qui a beaucoup travaillé sur le sujet de l'écoute, qui a exploré et développé des compétences particulières pour ça. Sébastien Dupuis, fondateur de Tiresio, qui est une société basée en Suisse et qui aide les gens à développer leurs soft skills, notamment leur écoute, pour contribuer au bien-être et à la collaboration. Sébastien, bienvenue.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Tu es où au moment où on se parle? J'aime bien demander à mon invité, parce que à chaque fois j'ai des invités qui sont dans des coins différents du monde. Toi, tu es à quel endroit?
Je suis chez moi, dans la chambre de ma fille aînée, à Ferney-Voltaire, la banlieue de Genève, côté français.
Côté français, d'accord, en Suisse. Alors, je voudrais juste te présenter et tu me corriges, tu me complètes. Tu es ingénieur de formation, tu es diplômé de Polytechnique, tu as travaillé 20 ans dans l'Internet, dans la Silicon Valley, en France, en Suisse, et tu as passé 10 ans en Chine, à Shanghai. Et progressivement, tu t'es intéressé au développement des compétences humaines et au rôle de l'ego dans les entreprises, on va en reparler. Et en 2019, donc, tu as créé Tiresio. Vos clients sont des organisations en forte croissance, en transformation, qui veulent accompagner le développement des individus, mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir du coaching ou d'offrir du coaching à tout le monde. Et donc, pour répondre à ce besoin, tu as développé plusieurs techniques d'écoute et de facilitation basées sur des principes d'humilité, de bienveillance et de confiance dans l'humain. Alors, est-ce que c'est une bonne reformulation? Est-ce que tu veux compléter, corriger cette courte présentation?
Oui, ça sonne assez juste. Peut-être le terme sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est quand tu as dit que je me suis progressivement intéressé à l'écoute, en fait, ça a été un peu brutal quand ça m'est arrivé. Il a fallu que j'attende 40 ans passés et puis quelques déconvenus professionnels et notamment un petit burn-out pour vraiment me pencher de plus près sur le sujet.
Écoute, je voulais te poser la question parce que je me demandais ce qui a fait que tu sois passé d'un métier de manager, un métier d'ingénieur dans le business à ce métier tourné vers l'humain, vers l'accompagnement. C'est vraiment un shift de carrière. Tu dis que tu es passé par un burn-out. Ça, je ne savais pas du tout.
Donc, effectivement, c'est un gros shift et si on m'avait dit en 1999 quand je commençais ma carrière comme un jeune ingénieur dans l'internet à manager des équipes pour lesquelles je me sentais pas vraiment outillé pour bien les manager, si on m'avait dit qu'un jour je travaillerais sur ces sujets du développement des compétences interpersonnelles dans les organisations, je suis pas sûr que je l'aurais cru. C'est des sujets qui m'intéressent depuis longtemps quand même, hein. Moi, en même temps que mes études d'ingénieur, j'avais fait, ça s'appelait un DEA à l'époque, un master en sciences cognitives. Je me souviens d'avoir eu un cours sur les biais cognitifs quelques années avant que Daniel Kahneman ait son prix Nobel. Et déjà, j'avais été fasciné par ça. Donc, c'est des réflexions qui m'ont longtemps habité, mais je n'ai pas forcément fait le lien avec mon propre développement personnel ou professionnel jusqu'à ce qu'en 2017, quand j'étais à Shanghai, bah, là, effectivement, j'ai fait un burn-out, j'ai perdu mon job. Bah, je suis passé par une période, on va dire, de recherche de sens un petit peu douloureuse, mais qui a ouvert la porte pour plein de choses. Et notamment, j'ai commencé à m'intéresser à l'écoute, d'abord pour régler un problème que j'avais moi, qui est que dans cette période où je l'avais pas très bien, je me suis aperçu que j'avais développé une hypersensibilité aux mots. Et donc les mots que les autres utilisaient, ou que moi que j'utilisais, et dans des conversations que les gens avaient de très bonnes intentions, bah, je m'apercevais que ça me faisait réagir très fort, très émotionnellement, ça me drainait parfois beaucoup d'énergie. Donc j'ai voulu comprendre ces mécanismes, et j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'écoute, de l'accompagnement de manière plus générale. Et pour la faire courte, moi j'ai quitté la Chine fin 2017, je me suis installé donc ici en Genève, et j'ai créé en 2019 cette boîte avec pour intention d'aller aider les gens à avoir des meilleures conversations. C'est comme ça que je le présentais à l'époque, parce que ça m'était apparu assez clairement dans cette période-là qu'il y a plein d'inefficacité, parfois des souffrances inutiles dans les boîtes qui sont dues au fait que les gens soit se parlent pas, soit ont pas les bonnes conversations au bon moment.
On peut se dire que fondamentalement, tout le monde peut essayer d'écouter, tout le monde a une paire d'oreilles. Donc pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de développer cette compétence? Pourquoi est-ce que ça mérite de s'y arrêter et d'investir de l'argent pour faire ça?
Déjà, effectivement, oui, tout le monde peut écouter et tout le monde a cette capacité-là. Tout le monde ne l'utilise pas ou ne l'utilise pas forcément en conscience de la même façon. Sur le sujet de l'écoute, comme sur beaucoup de compétences, hein, y a un petit effet de Dunning-Kruger, c'est-à-dire que les gens souvent pensent savoir bien écouter. Et en fait, bah, si on les met en situation d'observer ce qu'ils font, ils s'aperçoivent que peut-être ils auraient pu mieux faire ici ou là. Et donc déjà, créer ces prises de conscience, ça peut amener de la curiosité, de l'envie de développer ça. Et surtout, quand on arrive à le faire, ça permet de déminer beaucoup de situations dans les organisations quand il y a des tensions, des situations qui deviennent un petit peu conflictuelles ou émotionnelles. On s'aperçoit que très souvent on évoquait l'ego tout à l'heure, il y a les egos qui vont rentrer en jeu, qui vont faire et peut-être je peux préciser quelle est ma définition de l'ego, parce que quand on parle d'ego, ouais, souvent ça crée des réactions avec des connotations pas toujours très, très positives. Effectivement, il y a une définition de l'ego qui est en lien avec l'estime de soi, qui est parfois un petit peu excessive et qui va rentrer en jeu dans ces situations conflictuelles. Il y a une autre définition que moi j'aime beaucoup, qui dit que l'ego, c'est cette part de nous qui joue le rôle de filtre entre le conscient et l'inconscient. Et donc c'est une part de nous qui joue un rôle très utile la plupart du temps, qui nous veut du bien, et parfois elle va fonctionner de façon un petit peu différente et c'est peut-être moins utile. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces situations-là, offrir de l'écoute aux gens, ou faire en sorte qu'eux s'écoutent un petit peu différemment et prennent ne serait-ce que quelques secondes de plus dans une conversation pour laisser plus d'espace à l'autre, eh ben ça permet de déminer les situations, d'aider les gens à réguler leurs émotions plus vite, et du coup d'aider les gens à mieux se comprendre, mieux travailler ensemble.
Du coup, est-ce que l'écoute que toi tu proposes, c'est ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire je vais vraiment me centrer sur ce que tu dis en suspendant le jugement, je vais essayer de reformuler, c'est ça ce que tu prônes, ou alors, je crois que tu as développé justement autre chose.
Non, oui, nous on est tombé un petit peu par hasard sur autre chose. Donc ce qu'on fait, c'est pas de l'écoute active, et je pourrais expliquer quelles sont les différences. Nous on propose en fait un ensemble d'outils d'écoute. Moi, à partir de 2017, je me suis intéressé à ce sujet-là et j'ai commencé à glaner par-ci par-là des outils d'écoute. D'abord, pour répondre moi à mes besoins dans les relations qui étaient pas toujours très satisfaisantes dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Et puis j'ai commencé à les utiliser. Moi, je m'étais formé au coaching. À partir de 2017, j'ai commencé à utiliser ça dans mes sessions de coaching. Et pour la faire courte, mais j'ai d'abord commencé par développer une approche systémique pour aider les organisations, des départements tout entiers, à avoir des meilleures conversations sur la base de petites conversations d'une vingtaine de minutes qu'on appelle des bulles. Donc des bulles d'écoute, on va écouter les gens, et puis souvent un résultat de ces conversations d'écoute, c'est que les gens ont pris conscience d'une autre conversation qu'ils voulaient avoir avec leurs collègues, et on les aide à créer du dialogue dans l'organisation. Donc on a commencé par faire ça en intervenant sur des problématiques de bien-être, de collaboration, de performance d'équipe. Et puis fin 2020, on a un client qui nous a dit: mais est-ce que c'est pas possible de former des gens en interne à ce type d'écoute que vous faites dans les bulles? Et sans trop savoir si ça marcherait au début, on a commencé à former des gens. Jusqu'à présent, j'avais formé un peu plus d'une centaine de personnes, mais qui étaient tous des coachs. Et on savait pas si avec des gens qui ont pas déjà un background de coaching, ça marcherait aussi bien. Et en fait, on s'est aperçu, alors ça nous a pris quelques mois pour affiner l'approche pédagogique, mais maintenant, c'est des formations qu'on offre. Donc, on a un premier module de formation à l'écoute qu'on appelle l'écoute progressive. Et ce premier module, on l'appelle écoute pragmatique, où en gros, on apprend aux gens offrir un espace d'écoute juste de quelques minutes. Donc une bulle, chez nous la définition d'une bulle, c'est une conversation de 7 à 20 minutes qui propose à la personne qu'on écoute de venir avec un problème et de repartir avec sinon une solution, en tout cas une piste de solution. Et en fait, cette posture d'écoute, elle est tellement simple que les gens, maintenant, donc on arrive à former des gens en quelques heures de pratique, ils sont capables de développer cette posture d'écoute qu'ils peuvent utiliser donc dans des bulles qu'ils vont offrir formellement, mais ça donne aussi des outils que les gens peuvent utiliser dans les conversations du quotidien. Bon, en gros, il y a quelques principes très très simples qui font que cette posture, elle peut s'utiliser à peu près dans n'importe quelle conversation humaine. Quand on sent qu'il y a besoin de déminer une situation un peu émotionnelle, soit de créer un espace d'écoute pour l'aider à l'autre, pour l'aider à réfléchir. Et en fait, moi, je me suis jamais formé à l'écoute active. Alors quand j'ai commencé à m'apercevoir que ce qu'on faisait, ça ressemblait de très près à d'autres approches d'écoute, ou en tout cas avec une attention un peu semblable, je regardais de plus près, et il y a quelques grandes différences avec l'écoute active. Déjà, dans l'intention, l'écoute active, elle invite l'écoutant à comprendre ce que dit l'autre et à reformuler pour s'assurer qu'il a bien compris. Et déjà, le travail qu'a fait Carl Rogers, hein, il a sorti son bouquin en 1957 sur l'écoute active, c'était une grande avancée, je pense, dans l'accompagnement des personnes. Mais nous, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, ce travail de reformulation, il est pas utile, et il est pas utile à plusieurs titres. Déjà, il est pas utile pour l'écoutant, parce que ça demande pas mal d'attention à ce que dit l'autre, ça crée de la charge mentale, et du coup on s'est aperçu que quand on essaie de reformuler, ben souvent on est moins présent, même si on a l'habitude. Moi, j'ai eu des conversations avec des gens qui pratiquent l'écoute active depuis plus de 10 ans et qui disent moi, à la fin d'une journée où j'ai écouté des gens, ça me draine. Et il y a une autre dimension qui est que pour l'écouter, finalement, c'est pas très utile non plus de savoir, et ça peut paraître surprenant, mais il faut peut-être le vivre pour s'en rendre compte. C'est pas très utile non plus de s'entendre poser des questions pour que l'autre s'assure qu'il a bien compris. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire, et notamment quand on offre des conversations juste comme ça de quelques minutes, hein, avec ce souci d'efficacité aussi, de créer une expérience utile et agréable en quelques minutes. Et ben, il y a d'autres choses, il y a d'autres types de questions qu'on peut poser dans cette conversation. On appelle ça écoute progressive. C'est très différent de l'écoute active, à la fois dans l'intention et puis dans la façon de le pratiquer. C'est beaucoup plus accessible, hein, à apprendre.
Tu peux donner des exemples? Tu dis, on va aller poser d'autres types de questions. On va pas chercher à entrer dans le contenu, pas forcément à s'assurer qu'on ait compris le contenu. On va pas chercher à reformuler, donc on a moins de charge mentale. On pose d'autres types de questions. Par exemple, qu'est-ce que tu vas chercher à écouter du coup, si c'est pas le contenu?
Il y a plusieurs outils qu'on utilise dans les bulles. Il y en a un qui s'appelle les clean questions. Alors ça, c'est quelque chose de clean question. Ça vient d'une approche thérapeutique qui a été développée dans les années 80, 90, 90 par quelqu'un qui s'appelait David Grove. Donc c'était un thérapeute néo-zélandais, et ça a été repris. Il y a un très bon TED Talk d'ailleurs d'une anglaise qui s'appelle Kate Clean Walker sur les clean questions et les métaphores. Et c'est des questions qui sont en apparence toutes simples, mais qui ont ceci d'assez génial que elles sont faites pour faire le moins d'hypothèses possible sur ce que la personne a voulu dire. Et par exemple, un exemple de clean question, c'est si la personne dit une phrase où elle va évoquer une émotion, par exemple, elle dit « Ah, ça, c'est frustrant », tu peux poser la question « C'est frustrant comment ?» Donc, tu reformules pas ce qu'elle a dit, tu montres juste que tu as entendu ce mot-là et tu l'invites à explorer. Et c'est des questions qui sont vraiment très utiles pour montrer à l'autre qu'on est prêt à l'entendre sur quelque chose de potentiellement un peu chargé, d'un petit peu lourd. Et pour moi, c'était une chose qui me manquait, par exemple, dans le coaching, même s'il y a certaines écoles de coaching qui enseignent les clean questions. souvent on apprend au coach qu'il y a certaines choses qui ne sont pas du ressort de coaching, qui sont plus du ressort de la thérapie, dès qu'on arrive sur des sujets un petit peu lourds. Et nous, dans l'écoute progressive, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des guérisseurs. En revanche, on part du principe que, vu que notre promesse, c'est juste qu'on va écouter la personne, et ben on s'autorise et on autorise l'autre à aller explorer ces sujets-là. Donc si elle va dire un mot un petit peu chargé, et ben on va l'inviter avec une question à aller plus loin. Donc ça c'est un aspect assez important, et c'est vraiment un outil très puissant, et puis qui là aussi peut s'utiliser dans les conversations du quotidien. Ça demande un petit peu de pratique au début, parce que c'est pas des questions qui viennent naturellement, elles s'apprennent très vite. Et il y a une autre dimension qu'on a introduite dans l'écoute progressive, qui est une dimension systémique. Et si tu te souviens, moi je suis vraiment parti de cette notion de conversation, donc d'aider les gens à avoir des meilleures conversations dans les organisations. En fait, quand j'ai commencé à incorporer des questions autour des conversations dans mes sessions de coaching il y a quelques années, et ben je me suis aperçu que très souvent il se passait quelque chose d'assez magique rapidement, où les gens allaient gagner en clarté, parce que tout de suite ils repensaient à des gens qui leur avait déjà donné une perspective un peu différente sur le truc. Donc, et en fait, dans la bulle, maintenant, systématiquement, quand on enseigne ça aux gens qui se forment, il y a deux questions dont on sait qu'on aime bien les poser dans les bulles, savoir avec qui t'en as déjà parlé et avec qui ça aurait du sens d'en parler. Et ça paraît un petit peu bête comme ça, mais ces deux questions combinées, eh ben, elles permettent très souvent de donner de la clarté, de donner de l'énergie aussi, parce que très souvent, la personne va trouver un next step très actionnable. Et contrairement à une session de coaching d'une heure ou d'une heure et demie, où souvent on sort avec une to-do list un peu longue et un peu oppressante, ben là, en quelques minutes, on aide la personne à trouver un next step très actionnable, souvent une conversation ou deux conversations, et si possible qui vont lui donner de l'énergie et qui vont peut-être l'aider à débloquer son problème.
Oui, d'ailleurs, je dois dire, en préparation de ce podcast, que tu m'as offert une bulle, et on a eu un échange, je sais pas, ça a duré 20 minutes à peu près, je pense environ, et donc on a abordé un sujet qui était délicat pour moi dans mon travail, et je peux témoigner que ça m'a clarifié. Et effectivement, je réalise que tu m'as posé cette question, à qui tu en as parlé et à qui ça ferait du sens d'en parler. Je me souviens maintenant que tu m'as posé cette question, et que ça m'a aidé à clarifier, à passer à l'action. Je peux témoigner de la puissance de cette approche. On sent une forme de connexion. Moi, j'ai expérimenté une forme de connexion, le sentiment d'être vraiment écouté. Mais pour autant, je ne sais pas si c'est le mot empathie. Enfin, il y a une connexion, mais ce n'est pas une approche orientée progrès, orientée action, orientée solution. Je ne sais pas comment le dire. Je n'étais pas dans une forme d'écoute empathique ou à l'écoute de mes émotions, mes besoins, mais plutôt qu'est-ce qui ferait du sens maintenant pour avancer. Il y a quelque chose effectivement, tu as dit le mot pragmatique tout à l'heure, mais quelque chose de l'ordre du pragmatique. Ça aide à avancer, à clarifier. Et j'ai trouvé qu'en ça peut être une réponse à un grand besoin qu'il y a dans les organisations, qui est juste de se clarifier. Les gens sont perdus parce qu'en fait, il y a du stress, parce qu'en fait, quand on n'est pas clair, j'ai d'un côté trop de choses à faire, ou j'ai des problèmes trop complexes, et en fait, je ne sais plus comment avancer. Je ne sais plus par quel bout le prendre. Et ça crée du stress. Et en fait, si on remet de la clarté, ben, on enlève du stress, on remet de l'énergie, on avance. Et en fait, je pense que mon impression, et c'est comme ça que moi, c'est une qualité d'écoute qui aide la personne à retrouver de la clarté là où elle est, et qui lui permet de passer à l'action. Ça fait du sens, ça reformule bien ce que
ton intention. C'est ce que les gens nous disent, hein, quand ils sortent de bulle. Et nous, on va offrir ces conversations. Un gros avantage de ce format par rapport à du coaching, c'est du coaching. On va pas offrir du coaching à quelqu'un qui a pas besoin ou envie d'être coaché. Alors que nous, quand on intervient dans les organisations, vu que c'est un format très court, qui a en général, voilà, il y a un sujet collectif qui est posé, qui explique pourquoi on va écouter. On va écouter les gens, ça permet d'aller offrir proactivement ces conversations, aller ouvrir cet espace de parole, de réflexion, là où les gens n'auraient pas forcément fait le pas d'aller chercher de l'aide. Et très souvent, les gens sont surpris, effectivement, parce qu'ils ressortent avec de la clarté sur un sujet qui est titillé depuis quelques jours, quelques semaines, qui peut-être les empêcher de dormir. Et souvent, ce qui contribue à donner de l'énergie, c'est aussi le fait qu'il y ait quelque chose, même si c'est un petit quelque chose, même si c'est juste une conversation avec un collègue, une conversation avec le manager, de mettre les gens en mouvement. Et le truc qui nous a surpris, une fois qu'on a commencé à affiner la façon dont on forme les gens, c'est qu'en fait, tout le monde peut apprendre ça en quelques heures. Donc, c'est vraiment pas très compliqué.
C'est quoi ta vision par rapport à l'écoute? Est-ce que tu penses que tout le monde devrait se former à l'écoute progressive, ou c'est quoi ta vision un peu sociétale de l'écoute? Est-ce que tu penses que tout le monde devrait à l'école apprendre à écouter je me demande un peu, je suis curieux, si tout le monde savait faire ça, qu'est-ce que ça changerait dans le monde?
Ouais, alors je crois pas qu'il y ait que l'écoute, mais effectivement, il y a quelques compétences essentielles qui mériteraient d'être enseignées plus tôt. Il y a une initiative. Donc, tu as entendu parler des SDGs, les Sustainable Development Goals des Nations Unies, donc avec des objectifs de développement durable à 2030. Et il y a une autre initiative qui a émergé il y a bientôt 2 ans en Suède, qui s'appelle les IDGs, les Inner Development Goals, c'est un ensemble de praticiens et de chercheurs qui sont rendus compte que si on n'aidait pas les gens à faire ce travail sur eux, à développer un certain nombre de compétences essentielles, on n'avait aucune chance d'atteindre les SDGs. Du coup, ils ont lancé cette initiative. Ils ont recensé 23 compétences clés, dont l'écoute. Et une grande initiative où ils sont en train de rassembler des outils. Donc il y a un survey qui est en cours. Ils sont en train de préparer un field kit open source pour aller donner des outils à l'humanité, notamment à tous les gens qui sont en train d'accompagner des changements en vue de rendre ce monde meilleur, pour leur donner des outils pour développer les compétences dont ils ont besoin. Moi, je crois ce qu'il y a de particulier avec l'écoute, c'est que finalement, faire une liste de 23 compétences, je pense que c'est intéressant, c'est utile, ne serait-ce que pour créer peut-être de la conscience, du dialogue autour de ça, mais ça ne veut pas dire que les gens savent pour autant de quoi ils ont besoin. Et ce qui me semble particulier dans l'écoute, c'est qu'elle elle va permettre aux gens de prendre ce temps, de se poser ces questions-là, de faire le lien entre leurs problématiques du quotidien ou des choses plus aspirationnelles, et finalement aller identifier des choses qui sont à leur portée, que peuvent mettre en œuvre en quelques minutes. Hein, nous, on fait dans les organisations des ateliers qu'on appelle de compétences naturelles, où on met les gens en situation de s'écouter les uns les autres. La personne qui est écoutée est invitée à venir avec un problème qu'elle a aujourd'hui, et elle repart sinon avec une solution, donc une piste de solution, et puis une compétence qu'elle peut déjà mettre en œuvre, qui peut prendre la forme d'une conversation, peut-être d'un rendez-vous avec elle-même pour travailler sur un sujet qu'elle procrastine. Et donc l'écoute a ceci de particulier, qu'elle aide les gens à porter leur attention sur ce qui est vraiment important pour eux, pour les autres, pour toutes les parties prenantes potentielles.
Les gens qui nous écoutent sont souvent des leaders, des managers, des accompagnateurs du changement, de la transformation. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil si eux voulaient devenir des meilleurs écoutants? Ça commence par quoi?
Déjà, moi, je n'aime pas beaucoup le terme de conseil, et un des trucs qu'on désapprend aux gens à faire, que ce soit des coachs ou des non-coachs qui viennent dans notre formation, c'est d'apprendre à pas donner de conseils. En tout cas, au début de la formation, on les invite vraiment à observer toutes ces envies qu'on a d'aller suggérer, faire des injonctions aux gens parce qu'on pense que c'est bon pour eux. Donc je sais pas ce qui est bon pour les auditeurs dans leur situation personnelle. Maintenant, je peux inviter les gens à venir. On organise régulièrement des webinaires gratuits d'initiation où on propose des petits exercices autour de ça, déjà pour se familiariser. Mmh. C'est des moments d'échange où on se retrouve à écouter des gens qu'on connaît pas, et ces gens-là nous écoutent, et puis on s'aperçoit que finalement c'est peut-être pas si compliqué que ça de créer du lien un peu rapidement, de se dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de partager, de verbaliser, et du coup d'en retirer quelque chose. Ce qu'on voit, c'est que finalement, ce qui va faire que les gens intègrent ces pratiques-là, c'est vraiment la pratique. Encore une fois, il n'y a pas besoin de beaucoup de pratique. Hein, ça peut être quelques heures de pratique à coup de 10 minutes. Mais il faut se donner la permission, finalement, de laisser plus d'espace à l'autre. Peut-être attendre une fois qu'il a répondu 5-10 secondes de plus, même si c'est un petit peu inconfortable au début. Parce qu'en fait, il se passe quelquefois des choses magiques dans ces moments-là. Et moi, je me souviens d'un... Je le partage ici parce que moi, ça m'avait été très, très utile. Un outil que j'avais trouvé dans mes formations de coach, qui s'appelle le deep listening, l'écoute profonde, avec cette notion qu'il y a plusieurs niveaux d'écoute. On peut écouter les choses factuelles, ce qui est dit. On peut écouter les émotions, ce qui est sous-jacent. On peut écouter le sens, finalement, qu'on peut donner à ces émotions ou à ces faits qui nous sont dits. Et puis il y a un quatrième niveau qui est tout ce qui est non dit. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, où j'ai trouvé cet outil, je me suis dit, ah tiens, je vais vraiment l'essayer celui-là. Et je me suis aperçu que finalement, notamment dans des situations un petit peu tendu, que ce soit dans ma vie familiale ou et ben si je me forçais à écouter ce que les gens ne disaient pas, alors ça paraît un petit peu conceptuel comme ça, mais finalement si on fait cet effort-là, ben ça nous force à rester à l'écoute quelques secondes de plus, et puis on s'aperçoit que tiens, c'est intéressant de faire ça, et du coup on laisse plus d'espace à l'autre. Et moi je me suis aperçu que c'était un outil assez simple à mettre en place qui permettait de déminer certaines situations qui avaient tendance à partir en vrille quelquefois dans les dîners familiaux.
Les dîners familiaux, c'est des bons moments pour s'écouter ou pas s'écouter d'ailleurs. Alors c'est intéressant, tu dis que tu es à l'écoute de ce qui est non dit, donc en fait tu vas décoder ou détecter que en fait là il y a un éléphant dans la salle, où il y a un sujet qui est c'est bizarre que t'en parles pas. C'est ça que tu vas aller chercher en fait.
Alors ça c'est pour la posture d'écoute et c'est une invitation à porter son attention sur ce que la personne dit pas. Là j'évoquais ça parce que ça peut être un outil pour s'aider soi-même finalement à pas être dans la réaction un peu trop rapide et continuer à écouter plus longtemps. Après nous quand on intervient dans les organisations où on va intervenir alors sur des sujets, ça peut être on est intervenu sur une prise de poste d'une manager qui se passait pas très bien. On a écouté individuellement toutes les personnes dans l'équipe. Il y avait 8-9 personnes. Et dans ce genre de contexte, c'est effectivement très intéressant d'écouter ce que les gens ne disent pas. Et surtout quand on a l'occasion de parler à plusieurs personnes dans la même équipe. Et là, les éléphants qui peut-être nous étaient pas apparus quand on écoutait la première personne, ils deviennent très clairs. Et on a développé une méthodologie aller agréger toutes ces informations qui nous viennent des différentes personnes et en faire quelque chose d'utile, toujours dans le respect de la confidentialité des conversations individuelles.
Tu parlais tout à l'heure de votre offre et aussi du fait que vous faites des webinars. Peut-être que tu peux nous parler un peu plus de Tiredio, de votre organisation, nous présenter un peu. Et puis aussi, je crois qu'il n'y a pas que l'écoute, il y a d'autres skills que vous proposez d'accompagner, il me semble. Voilà, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que vous faites? On comprend qu'il y a les coachings avec les bulles, mais il y a aussi des formations à l'écoute. Est-ce qu'il n'y a que ça ou il y a aussi d'autres choses?
Nous, de manière générale, ce qu'on propose, c'est des expériences apprenantes sur des formats très courts pour aider les individus, les équipes à développer les compétences dont ils ont besoin pour mieux vivre, mieux travailler ensemble. On a commencé effectivement par les accompagnements avec des bulles. On a aussi des formats collectifs qu'on appelle des capsules, là, qu'on va proposer plus en mode coaching. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il y avait dans certaines organisations finalement un besoin, une des problématiques du coaching ou des interventions comme ça pour aller soulager une équipe qui va pas très bien, c'est qu'en général elles interviennent trop tard et il y a aussi beaucoup de valeur à créer dans les organisations en allant beaucoup plus proactivement aller aider les gens à déjà développer une curiosité de ces sujets-là, de l'intelligence émotionnelle et créer du dialogue autour de ça. Donc on propose aussi des ateliers, donc toujours sur des formats très courts, hein, l'atelier des compétences naturelles que je mentionnais tout à l'heure, on peut le faire sur 60 minutes, sur 90 minutes, où c'est vraiment pour sensibiliser les gens au sujet de l'écoute et les mettre en situation de s'apercevoir que ils sont capables aussi assez facilement en quelques minutes d'offrir une écoute qui crée un espace très safe pour l'autre et où du coup les gens se disent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de dire entre collègues, donc de créer du lien. Et puis on propose aussi des formations pour les individus, pour les organisations. Donc on a différents modules de formation. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'écoute pragmatique. On enseigne ce format de la bulle et qui permet aux gens, au-delà de développer cette posture d'écoute avec des outils qu'ils peuvent réutiliser dans leur conversation du quotidien, c'est aussi un chemin de transformation personnelle, hein, ce que les gens nous disent, puisqu'on va les inviter pendant la formation finalement à observer toutes ces choses qu'ils ont tendance à faire dans les conversations qui sont pas toujours utiles ou agréable. On aborde dans nos webinaires, dans nos formations, cette notion de biais conversationnel. C'est toutes ces injonctions, ces affirmations, ces questions qu'on va poser pour mieux comprendre la problématique de l'autre et qui sont pas toujours, qui sont pas toujours ce qu'il y a de plus utile pour la conversation ou pour créer du lien.
Créer du clean questions et des clean listening. Une écoute sans biais, sans projection clean ou propre de ses réactions. C'est mécanismes naturels. On a envie, quand on écoute, d'interrompre et on projette peut-être ses propres idées ou on a envie d'amener ses conseils alors que c'est peut-être pas ce dont l'autre a besoin, quoi, à ce moment-là. Ok, alors on va mettre le lien dans la description parce que vous avez plus d'informations si on veut s'inscrire, si on veut vous contacter, bien, tout est sur le site internet, je pense, j'imagine.
Et j'allais dire que la première partie de la formation, elle consiste vraiment à déconstruire tous ces automatismes qu'on a.
C'est ça.
Et ensuite, on apprend aux gens à reprendre des libertés, mais à aller le faire en conscience. Parce que le but, c'est pas de créer des conversations qui sont pas naturelles, qui sont pas spontanées. Mais c'est vraiment d'aider. Et moi, je sais quand ça m'a pris, quand j'ai commencé à pratiquer, peut-être une cinquantaine de bulles de pratique, mais assez rapidement, je me suis aperçu que une fois que ces outils étaient intégrés, j'étais en capacité d'avoir une conversation qui soit utile et agréable pour à peu près n'importe qui dans n'importe quel contexte.
Wow, ça c'est une sacrée promesse.
C'est ce que les gens nous disent. C'est pas anodin hein, comme formation, donc on s'est aperçu qu'elle s'adresse à un public beaucoup plus large que des gens qui sont déjà coach, donc il n'y a pas besoin d'être un professionnel de l'accompagnement pour faire la formation, loin de là. Par contre, c'est un chemin de développement personnel, donc il faut avoir envie de faire cette démarche et d'aller...
C'est combien de temps ? Ça prend combien de temps, cette formation ?
La formation module 1, en tout, c'est l'équivalent de 2 jours de formation, mais étalé sur 8 semaines. On a 3 sessions en ligne de 2 heures chacune, et le reste, c'est du temps de pratique à son rythme.
Super. Et j'ai envie de te poser une question un petit peu hors scope. Bon, alors, tu es français ou tu es suisse ?
Je suis français.
C'est français, ouais. Donc, tu as dû suivre en France, on sort d'une période d'élection. Aujourd'hui, en fait, il se trouve que j'animais un séminaire où on parlait d'écoute, tu vois. Donc, voilà, donc j'étais en plein dans ce sujet et je me disais, mais je vous en faisais le reflet que dans le débat politique, on avait une manière de s'écouter, qui était une écoute justement polarisée, réactive, où on va aller chercher, ou au contraire, pas à coopérer, à construire ensemble un monde meilleur, mais plutôt aller chercher le défaut et même à interpréter au maximum. Et d'ailleurs, bien sûr, dans les débats, on est polarisé, mais même le mode par défaut n'est pas un mode d'écoute, fondamentalement de coopération. Ça paraît évident de dire ça, mais j'aimerais bien avoir ta perspective là-dessus. Je pense que c'est pas du tout anodin, je pense que c'est un énorme sujet, parce qu'en réalité, si on fonctionne dans notre démocratie sur ce niveau d'écoute, qu'est-ce qu'on va arriver à construire ensemble? Enfin, je ne sais pas ce qu'on va arriver un jour à faire. On est forcément déçu. On est forcément à construire des groupes les uns contre les autres et pas à réellement être une démocratie en réalité. Ou en tout cas pas une démocratie au sens où chacun peut être entendu, s'exprimer et qu'on puisse co-construire et ensemble piloter notre destin. J'ai l'impression de faire une grande envolée en disant tout ça, mais c'est une réflexion que je me suis fait dans la journée justement. Et j'ai envie de te partager cette réflexion et te demander toi ta perspective. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu analyses quand tu vois les discussions, les débats, les échanges dans les médias, notamment à la télé, la radio, les réseaux sociaux, en lien avec ton métier autour de l'écoute. C'est quoi ta perspective là-dessus?
Moi, j'ai envie de te répondre à deux niveaux. Et le premier, il est peut-être un petit peu provocateur. J'ai envie de dire, mais c'est comme ça partout. C'est comme ça dans les familles, c'est comme ça dans les organisations. Alors, ça apparaît peut-être pas de façon aussi évidente. Mais moi, quand j'évoquais cette période où j'ai développé cette sensibilité particulière aux mots, il y a une métaphore que j'aime bien utiliser, qui est celle de l'acupuncture. Pour moi, les mots, c'est comme des aiguilles d'acupuncture. Donc c'est quand on la plante, si c'est fait au bon endroit, au bon moment, ça fait peut-être un peu mal, mais ça fait aussi du bien. Et puis si on sait pas trop ce qu'on fait, on peut faire plus de mal que de bien. Et ma lecture, que ce soit dans le débat politique, où là il y a peut-être l'intention de faire du bien, ou dans plein d'autres contextes où ça va être plus ou moins conscient, j'ai dit l'intention de faire du bien, c'est un lapsus, c'est l'intention de pas faire que du bien. On a envie de dézinguer la thèse de l'autre, mais dans les autres contextes, dans toutes les interactions sociales, on va, sans s'en apercevoir, planter des petites aiguilles qui vont aller créer des émotions négatives chez l'autre. Souvent, pas toujours, mais souvent avec des intentions bienveillantes. Et je crois qu'on a tous une responsabilité, finalement. On n'a pas tous besoin de devenir acupuncteur et devenir des experts des mots. On n'a pas tous besoin d'être chirurgien. Mais par contre, si on peut tous développer les bons réflexes des premiers secours, parce que finalement, des gens qui sont en souffrance, des gens qui font pas très bien, on en croise régulièrement dans notre vie. Donc, je pense qu'on a tous une responsabilité de développer ça. Donc, finalement, ce que t'observes, ce que tu décris dans le débat politique, je pense ça se passe un petit peu partout, pas de façon aussi ouverte ou de façon aussi consciente. Après, dans le débat politique, moi, je crois, j'espère que le changement, il va venir de gens qui ont des idées innovantes, qui tiennent compte des parties prenantes et qui vont lancer des mouvements, qui vont lancer des business qui visent à changer le monde, à changer les systèmes, et si on peut s'aider, collaborer pour avoir le poids qu'il faut pour faire évoluer les mentalités aussi au niveau du monde politique, je pense qu'on aura fait une partie de notre job. Ouais.
Merci, voilà, de cet échange-là. Je voulais sortir un peu de ce cas. On pourrait rester longtemps là-dessus. On va juste en rester là. C'est bien pour ce soir. Du coup, on arrive à la fin de cet échange. J'aimerais bien te demander, comme on le fait avec nos invités, peut-être une ou deux minutes de tout seul, face avec l'audience, avec nos auditeurs. Donc, je vais couper mon micro, enlever mes écouteurs. Donc, en fait, je ne sais pas ce que tu dis, j'entends pas. Et en fait, c'est un moment de liberté pour toi, pour dire ce que tu veux. Si tu veux offrir un moment de silence, ça peut être ça aussi. Une, deux, trois minutes. C'est OK pour toi, ça ?
Ouais.
OK. Alors, écoute, c'est parti.
Alors, moi, j'ai bien envie de vous proposer un petit moment de réflexion. Je vais vous poser quelques questions dans les minutes qui viennent. Et je vous invite à répondre. Si vous êtes dans un environnement où vous pouvez le faire à voix haute, faites-le. Sinon, vous pouvez répondre dans votre tête. Je vous invite dans une bulle. C'est un moment pour vous. Moi, je suis là pour vous écouter. Finalement, que je vous entende ou pas, c'est pas si important que ça. Je vous invite à parler d'un sujet qui vous préoccupe aujourd'hui, quelque chose peut-être qui vous empêche de dormir, ou quelque chose dans lequel vous mettez de l'enjeu. De quoi est-ce que vous avez envie de me parler ? Avec qui est-ce que vous en avez déjà discuté ? Avec qui est-ce que ça aurait du sens d'en parler? Et maintenant, quelles prochaines actions est-ce que vous avez envie de vous donner? Voilà, merci d'avoir joué le jeu et au plaisir d'une prochaine conversation.
Sébastien, merci pour cette rencontre. Merci. Un plaisir de t'avoir dans le podcast, de t'entendre parler des coups, de ton approche, de comprendre ce que vous faites avec Thierry Thiot. Et pour tous nos auditeurs, j'espère que vous allez repartir de cette écoute de ce podcast avec des idées, avec de l'inspiration. Je vous invite peut-être tout particulièrement à écouter avec de la qualité, de l'attention, sans entrer dans les mouvements de réaction ou de projection ou de solution pour l'autre, mais simplement d'être avec et d'entendre. Sébastien, merci. On se dit à la prochaine.
Merci. Je me réjouis d'avoir fait ça avec toi.
Et moi aussi. Et bien, à bientôt à tous nos auditeurs pour le prochain épisode. Au revoir.